Le médecin des pauvres, première partie, chapitre 17, le bûcher. Au centre du bûcher s'élevait un poteau muni d'un collier de fer ou carcan. Les exécuteurs assujettirent ce collier autour du cou du condamné et le laissèrent seul et enchaîné à cette sorte de pilori sur la plateforme qui bientôt se métamorphoserait en une fournaise ardente. « Ils n'ont pas pu, » murmura Pierre Prost en promenant un long et dernier regard sur la foule redevenue morne et silencieuse. « Ils n'ont pas pu. » Et détachant son esprit de la terre, il cessa de penser à ceux qui semblaient l'abandonner, et il recommanda son âme à Dieu. Un des bourreaux se tourna vers le balcon, attendant un ordre. Le comte de Guébriant échangea quelques mots avec le masque noir, puis il fit le geste attendu. Les deux exécuteurs secouèrent leurs torches pour les aviver, et ils approchèrent la flamme des fascines entassées sous les souches de sapin qui formaient le bûcher. Alors, au milieu du silence, retentit un sifflement aigu. Un mouvement d'une foudroyante promptitude se fit dans les premiers rangs de la foule. Chacun des soldats suédois formant le cercle et la haie chancela sous la formidable étreinte d'un montagnard qui, le contenant d'une main, lui appuyait de l'autre la pointe d'un couteau sur la gorge. En même temps, trois hommes bondirent sur le bûcher, écrasant en passant les torches sous leurs pieds. Et le peuple battit des mains et poussa de longs cris de joie en voyant debout à côté de Pierre Prost le colonel Varose qui brandissait sa lourde épée, tandis que le curé Marquis laissait tomber le manteau sombre qui cachait sa robe écarlate et que l'accuson détachait les chaînes du carcan et tranchait les cordes qui liait les mains du condamné. Lorsque le capitaine eut terminé son œuvre, quand Pierre Prost, libre enfin, put tendre ses mains meurtries aux mains de ses défenseurs, les acclamations de la multitude redoublèrent et retentirent comme le tonnerre ou le canon. C'est qu'en effet, c'était un spectacle grandiose et sublime que celui qui s'offrait en ce moment au regard de la foule enivrée. Il était beau comme un chant de l'Iliade ou comme un drame du vieux Corneille. L'héroïsme chevaleresque de ces trois hommes se dévouant pour en sauver un seul, lui faisant de leur corps un triple bouclier, et voulant ainsi qu'il se l'était juré, le sauver ou mourir pour lui. Varose, ce grand vieillard à tête blanche, inébranlable comme ces montagnes dont les cimes sont couvertes de neige éternelle, portait haut sa tête martiale et appuyait l'une de ses mains sur l'épaule du médecin des pauvres. Marquis, les yeux tournés vers le ciel où montait l'action de grâce de son cœur bondissant, avait le regard inspiré d'un prophète et l'attitude résolue d'un soldat. Son visage pâle s'éclairait des reflets de sa robe pourpre. Il soutenait de l'un de ses bras Pierre Prost dont l'émotion de la délivrance anéantissait les forces. Devant eux, l'accusant, l'épée à la main, la joie et l'orgueil dans les yeux, la lèvre soulevée par le fier sourire de la victoire, n'avait jamais mieux senti sa force et mieux savouré les ardentes ivresses du triomphe. Les montagnards, terribles dans leur calme menaçant et tenant au bout de leurs couteaux la vie des soldats anéantis, complétaient le tableau. Tandis qu'en face de cette scène, sur le balcon gothique, le comte de Guébriant et le masque noir, paralysés en quelque sorte par la stupeur, doutaient du témoignage de leur sens, et que la foule hurlait avec un délire grandissant « Noël ! Noël ! Vive l'accusant !» Le sire de Guébriant était brave, mais dans la position où il se trouvait placé, embrassant d'un seul coup d'œil tous les détails de la dramatique péripétie qui précède et qui s'était accomplie en bien moins de temps que nous n'en avons mis à la raconter, il comprit vite que ses troupes étaient à la discrétion des montagnards, qu'un geste du capitaine l'accusant suffirait pour amener un massacre général et que pas un Suédois peut-être ne sortirait vivant de Saint-Claude. Il hésita pendant une seconde sur le parti à prendre, mais l'orgueil du grand seigneur ne tarda guère à l'emporter sur la prudence du général, et il cria d'une voix tonnante « Par Notre-Dame, c'est trop d'audace! Feu, soldats, feu, Suède et France !» Pas un homme ne pouvait obéir, et pas un homme n'obéit en effet. Le capitaine l'accusant, qui déjà venait de descendre les marches du bûcher, s'arrêta, et se tournant vers le balcon, il dit avec éclat, mais avec calme, « Comte de Guébriant, vous voyez bien que nous sommes les plus forts. N'essayez pas d'engager une lutte sanglante et qui tournerait contre vous et contre les vôtres. Aujourd'hui, je ne suis pas un ennemi, je suis un libérateur. Je ne voulais qu'une vie, celle de mon oncle, et si cela dépend de moi, pas une goutte de sang ne coulera. Que vos hommes déposent leurs armes et nous livrent passage, et je vous jure sur mon honneur de soldat, il ne leur sera fait aucun mal. Demain, si vous le voulez, nous nous retrouverons face à face, et je vous offrirai votre revanche de l'échec que vous subissez aujourd'hui. » L'accusant n'avait pas fini de parler que déjà de toutes parts, les Suédois, sans attendre l'ordre de leur général, laissaient tomber leurs mousquets. Le sire de Guébriant, comprenant qu'il fallait céder à la toute-puissante nécessité, se tut. L'accusant prit ce silence pour un acquiescement, et saluant le comte avec son épée, il fit quelques pas en avant, précédant Pierre Prost qui marchait appuyé d'un côté sur Varose et de l'autre sur le curé Marquis. La foule s'écartait sur leur passage. Tout allait se terminer sans effusion de sang. Soudain, une détonation retentit. Le capitaine se retourna. Pierre Prost, échappant aux bras qui le soutenaient, tombait sur le sol, baigné de son sang et la poitrine trouée par une mortelle blessure. Sa main défaillante s'élevait vers le balcon et ses lèvres murmuraient d'une façon presque indistincte. « C'est lui, lui, le masque noir !» L'accusant frissonnant leva les yeux. Le gentilhomme inconnu remettait lentement à sa ceinture le pistolet fumant dont il venait de se servir. Quand les regards de l'accusant redescendirent à Pierre Prost, ils s'arrêtèrent sur un cadavre. Le capitaine étendit la main au-dessus de ce corps sans vie. « Frère de mon père, tu seras vengé » balbutia-t-il. Puis d'une voix que la fureur rendait vibrante comme le clairon du jugement dernier, il cria « Trahison ! À moi, Franc-Comtois ! L'accusons ! L'accusons et vengeance !» Tout en poussant son cri de guerre et d'appel, le capitaine, suivi de Garbas, de Piedefer et de deux ou trois hommes des corps francs, s'était précipité vers la porte du couvent et s'élançait sur l'escalier qui conduisait au balcon où le masque noir et le comte de Guébriant se trouvaient encore. 200 Suédois tombèrent en même temps sous le couteau des montagnards. Ceux qui formaient les pelotons commandés par l'Espinassou et d'autres disséminés dans la foule s'efforçaient de se rallier en faisant feu de leurs pistolets et de leurs mousquets en criant « Suède ! Suède !» La mêlée devint générale. L'Espinassou avait disparu. Au bout de quelques instants, la place Louis XI présentait le plus terrible et le plus effrayant aspect. C'est qu'il ne s'agissait point là d'une rencontre ordinaire entre soldats marchant sur des bannières différentes, mais d'un combat corps à corps, d'une lutte d'homme à homme, dans laquelle tout l'avantage devait rester à la force physique et surtout à l'audace et à l'agilité. C'est assez dire combien était grande la supériorité des montagnards. Et puis le sifflement bien connu de l'accusant, l'apparition de cette robe rouge du curé Marquis, à laquelle la superstition, nous l'avons déjà dit, attachait des idées surnaturelles. La mort de Pierre Prost, qui venait d'être, non point exécuté, mais assassiné, tout cela avait rempli les Suédois d'une profonde épouvante. Ils se sentaient vaincus d'avance. Cependant, vaillants aventuriers et soldats déterminés pour la plupart, sachant d'ailleurs qu'ils n'avaient ni merci ni quartier à espérer de leurs implacables ennemis, ils n'étaient point hommes à se laisser égorger, sans résistance, comme des moutons dans un abattoir. Et puisqu'il fallait mourir, ils résolurent de vendre chèrement leur vie. Une demi-douzaine de montagnards s'étaient rangés autour du curé Marquis, qui, presque agenouillé, soutenait dans ses bras le corps inanimé de Pierre Prost. Le colonel Varose, passant et repassant dans la mêlée comme un héros d'Homère, faisait tournoyer sa longue épée et à chaque coup fauchait un homme. Bientôt, ce ne fut plus un combat, ce fut une boucherie. Les Suédois ne pouvaient fuir, car un double rang d'épées nues garder les deux entrées de la place Louis XI. Écrasés par le nombre et par l'impétuosité des montagnards, ils tombaient les uns après les autres, et les vainqueurs, que le sang répandu et l'ardeur de la vengeance enivraient, frappaient encore, frappaient toujours, et s'acharnaient même sur les cadavres, à défaut d'ennemis vivants. Ce qui précède s'était passé dans un intervalle d'un peu moins de 10 minutes. L'accusant reparut sur le seuil de la haute porte blasonnée, avec les hommes qui l'escortaient, et fit retentir son coup de sifflet. Les montagnards abandonnèrent aussitôt leur œuvre de destruction et s'empressèrent autour de lui. « Eh bien !» lui demanda Varose en essuyant son épée sanglante qui s'était ébréchée en plus d'un endroit sur les crânes qu'elle fracassait. « Le masque noir !»« Il a fui, le lâche !» répondit le capitaine avec rage. Il a fui en verrouillant les portes derrière lui, et tandis que nous brisions ces portes, il avait le temps de quitter l'abbaye. Mais je le retrouverai, je le jure. Oui, je le retrouverai, et alors ? Il n'acheva pas. « Silence ! » dit vivement le colonel. « Écoute !» L'accusant prêta l'oreille. On entendait du côté de la grand-rue des rumeurs confuses, des cris de détresse, le bruit des pas réguliers d'une troupe nombreuse, un cliquetis d'armes et le fracas des tambours qui battaient une charge impétueuse. En même temps, un des hommes qui gardait l'issue dévastée de la place se replia vers l'accusant et lui dit « Capitaine, les Suédois et les Gris arrivent !» L'espinassou avait profité du premier moment de confusion et de désordre pour s'échapper par les cloîtres intérieurs et pour aller chercher des troupes fraîches. Il revenait avec ce renfort. « Les Suédois ? Les Gris ?» répéta l'accusant. « Tant mieux, enfant ! Bataille ! Bataille ! J'ai promis à mon oncle des funérailles splendides. Aidez-moi à acquitter ma promesse. Chargez vos armes, formez-vous sur trois rangs et attendons. » Les montagnards obéirent avec cette admirable et intelligente promptitude qui de tout temps a caractérisé les partisans des corps francs et dont nos chasseurs d'Afrique et nos zouaves, les premiers soldats du monde, a dit un général qui s'y connaissait, semble avoir reçu le glorieux héritage. Cette triple ligne de montagnards formait une barrière infranchissable entre le curé marquis et les assaillants qui se rapprochaient. Le capitaine se tenait à la droite des partisans, Barrose à la gauche. Il y eut un moment d'attente et de silence profond. Les hommes de l'accusant avaient leurs armes à l'épaule, comme des chasseurs prêts à faire feu. La tête de colonne des Suédois et des Gris déboucha sur la place avec ardeur, mais en désordre. L'accusant la laissa s'approcher à portée de mousquet, puis son coup de sifflet donna le signal d'une décharge terrible. Les montagnards, comme les Vendéens de 1793, visaient avant de tirer et manquaient rarement leur coup. Le premier rang des ennemis tomba foudroyé. Le second rang riposta par un feu mal nourri, tout en reculant, et une épaisse fumée enveloppa pendant une seconde les deux parties, les blessés et les morts. « Rechargez !» cria l'accusant. « Et attendons encore !» La brise du matin souleva le nuage qui voilait les combattants. Les tambours suédois recommencèrent à battre la charge, et la colonne ennemie regagna le terrain qu'elle avait perdu. Mais au lieu de donner le signal d'une seconde décharge, le capitaine poussa un cri de fureur et bondit seul en avant. Il venait de voir, seul aussi et en tête du premier rang, le géant l'espinassou brandissant au bout de son bras démesuré sa gigantesque rapière, pareille à ces épées à deux mains dont nos ancêtres se servaient dans les combats, et dont un homme robuste ne soulèverait qu'à grand-peine aujourd'hui la lourde lame. Les montagnards d'un côté, les Suédois et les Gris de l'autre, firent un mouvement pour se porter au secours de leur commandant. Mais presque aussitôt ils s'arrêtèrent d'un commun accord et semblèrent décidés à rester simples spectateurs de la rencontre corps à corps qui se préparait. Ce n'était point chose rare à cette époque, on le sait, qu'un combat singulier entre deux chefs, devant le front de bataille de deux armées ennemies, qui faisait trêve pour servir de témoin à ces duels chevaleresques et pour juger les vaillantes estocades. Ce n'était point chose rare à cette époque, on le sait, qu'un combat singulier entre deux chefs, devant le front de bataille de deux ennemis, qui faisait trêve pour servir de témoin à ces duels chevaleresques et pour juger les vaillantes estocades qui se portaient de part et d'autre. L'espinassou avait pour arme la rapière qu'il faisait tourner au-dessus de sa tête, un court poignard à lame aiguë et triangulaire, suspendu à sa ceinture, et deux pistolets. Le capitaine, lui, n'avait que son épée. Ses pistolets déchargés et son poignard brisé, en cherchant à forcer une des portes qui le séparait du masque noir, ne pouvait lui être d'aucun usage. Il marcha, ou plutôt il courut sur l'espinassou, en lui disant « Misérable, bandit, pillard, double traître et double lâche !» Vas-tu fuir tout à l'heure comme tu fuyais la nuit passée à Longchaumois ? Si je fuis, tu le verras bien, répondit le géant, et quand tu l'auras vu, tu n'iras le répéter à personne. Et il accompagna ses paroles d'un si terrible coup d'épée que le capitaine devait infailliblement périr, car aucune parade n'était capable d'arrêter ou seulement de ralentir la chute foudroyante de la pesante rapière. L'accusant dut son salut à la justesse sans rivale de son coup d'œil et à la souplesse de ses membres d'acier. Avant que l'arme de l'espinassou fût descendue, Le capitaine s'était mis hors de ligne par un écart rapide. La rapière ne frappa que le vide, et tandis que le géant se relevait, son adversaire, d'un coup de pointe, lui faisait au bras gauche une entaille, d'où le sang jaillit, teignant subitement en rouge la manche grise du pourpoint. « Je changerai de cette façon la couleur de ton pourpoint tout entier, et de tes hauts de choses par-dessus le marché, » dit l'accuson en se remettant en garde. « Je les rendrai plus écarlates que la robe du curé marquis. Je percerai ton corps d'autant de blessures qu'il y a de trous dans les écumoires de nos ménagères. » « Fais-le donc !» répliqua l'espinassou en grinçant des dents. « Fais-le donc !» Et profitant de sa haute stature et de sa force prodigieuse, que la rage augmentait encore, il lança à l'accuson toute une série de coups d'estoc et de taille, en face, de côté, de droite à gauche et de gauche à droite, avec une si effrayante rapidité que le regard ne pouvait suivre les évolutions de cette arme invisible qui coupait l'air en sifflant. Le capitaine, sans même chercher à parer, multipliait ses écarts, de façon à se trouver hors de la ligne tournoyante que décrivait la rapière. Et de seconde en seconde, il ripostait par un coup droit. Son bras ployé se tendait comme un ressort, son épée filait comme une flèche. Une nouvelle tache sanglante apparaissait sur le pourpoint gris. L'espinassou ne parlait plus. Ses dents serrées s'entrechoquaient. Sa poitrine haletante se soulevait avec des mugissements sourds. Son visage s'injectait de sang. La fatigue venait. L'accuson voulut en finir à l'instant même avec le chef hideux des gris, avec l'âme damnée du masque noir. Il profita du moment où l'espinassou relevait plus lentement sa rapière pour le frapper en pleine poitrine. Cette tentative prématurée était une imprudence. Le coup porta, mais la blessure fut peu profonde. Le géant ne tomba point, et sa rapière, rencontrant l'épée du capitaine, la brisa comme si elle eût été de verre. L'accuson était désarmé. Les Suédois poussèrent une clameur de triomphe, les montagnards un cri de détresse et d'épouvante. Varos, Garbas, Piedefer et d'autres encore allaient s'élancer pour venir en aide à leur capitaine, mais il serait arrivé trop tard si l'accuson, par une manœuvre d'une incompréhensible hardiesse, n'eût rendu soudainement nul l'avantage marquant que l'espinassou venait de remporter. Jetant loin de lui l'inutile tronçon qui lui restait à la main, car son épée s'était rompue à 2 pouces à peine de la poignée faite en forme de croix, il bondit sur le géant, le saisit par le milieu du corps, enlaça ses bras autour de ses reins, ses jambes autour de ses jambes, et s'efforça de le renverser. L'espinassou, surpris par cette brusque et rude étreinte, laissa tomber à son tour la rapière, dont il ne pouvait plus se servir. Il comprenait que dans cette nouvelle phase de la lutte engagée entre lui et le montagnard, lutte qui ne devait invraisemblablement se terminer que par la mort de l'un d'eux, il ne lui fallait compter d'une manière efficace que sur sa vigueur de taureau. Si, dans ce moment, il eût tenu son poignard ou l'un de ses pistolets, il aurait brûlé le plus facilement du monde la cervelle de l'accuson, ou bien il lui aurait enfoncé 6 pouces de fer entre les 2 épaules. Mais poignard et pistolet étaient à sa ceinture, et l'étreinte du capitaine ne lui permettait point d'y porter la main. Cependant, l'espinassou, par la seule puissance de sa pesanteur, résistait aux efforts de l'accuson, qui cherchait à le renverser et ne l'ébranlait même pas. Le géant s'arc-boutait sur ses jambes d'Hercule Farnèse. Les forces réunies de 3 hommes ne l'auraient pas fait vaciller. Cette situation pouvait se prolonger indéfiniment. L'espinassou ne bougeait point, mais le capitaine ne desserrait pas les nœuds vivants dans lesquels il enserrait son adversaire. Les 2 hommes restaient muets et leur respiration sifflante passait bruyamment à travers leurs dents serrées. Alors, l'espinassou eut une idée. Et voici quelle fut l'idée de l'espinassou. Il avait songé d'abord à broyer la poitrine du capitaine en l'appuyant contre lui et en le pressant de toute la force de ses bras nerveux. Mais il était trop grand pour atteindre les reins du jeune homme. C'est en ce moment qu'il pensa à l'étrangler en lui comprimant le cou entre ses 2 mains, jusqu'à ce que mort s'en suivît. Le moyen était bon et sûr. Heureusement, l'accusant devina l'intention du géant et la paralysa en enfonçant sa tête entre ses épaules. L'espinassou ne se découragea point. Et s'obstinant dans son projet de strangulation, il se mit à peser de tout son poids sur les 2 épaules qui protégeaient si mal à propos le cou qu'il voulait serrer. Le capitaine pouvait se considérer comme parfaitement perdu si le gris venait à bout de le prendre à la gorge, car le carcan de la garrotte espagnole, qui termine en 4 secondes l'agonie des patients, n'était qu'un joujou enfantin à côté des poignées de fer du géant. En face de cet imminent danger, il fit, sans croire au succès, une tentative désespérée. Profitant de ce que le colosse se soulevait lui-même et détruisait en partie son équilibre pour appuyer plus violemment ses deux mains sur ses épaules, il rassembla toutes ses forces, raidit ses nerfs, tendit ses muscles, déracina pour ainsi dire l'espinassou, le fit chanceler, le renversa et tomba sur lui. La physionomie du combat changeait encore, et cette fois l'avantage de la situation était pour le capitaine. Avantage bien précaire du reste, car d'un bond puissant et irrésistible, l'espinassou pouvait reprendre le dessus. Le géant ne songea qu'à saisir son poignard à sa ceinture. Ce que maintenant il pouvait faire, il le tira rapidement et il le brandit sur la tête de l'accusant. Ce dernier dénoua son étreinte et saisissant des deux mains la main qui tenait le poignard, il se coucha sur l'autre bras de l'espinassou afin de le paralyser et il essaya, non point de le désarmer, mais de le forcer à se frapper avec sa propre main et son propre poignard. L'espinassou comprit le péril. Il se tordit comme un serpent, il cramponna ses talons sur le sol, et donnant un coup de rein formidable, il parvint à se soulever, à soulever l'accusant, à le faire rouler à sa place et à l'étendre sous lui. Le capitaine, tout en s'avouant que sa position devenait désespérée, n'avait pas lâché le bras armé de l'espinassou et contenait toujours le poignard levé sur sa tête. Lequel des deux l'emporterait ? Lequel des deux se lasserait le premier ? Il n'y avait là désormais qu'une question de patience. Les témoins de cet étrange combat, à quelque camp qu'ils appartinssent, se sentaient involontairement frissonner. D'un commun accord, ils rompirent la trêve tacitement convenue et s'élancèrent les uns contre les autres, les montagnards pour tuer l'espinassou, les Suédois pour égorger l'accusant. La mort des deux adversaires devenait la seule issue vraisemblable du combat. C'est autour de ces corps enlacés, palpitants mais presque immobiles, que l'action s'engagea. Elle fut terrible. Suédois et montagnards s'empêchaient mutuellement d'approcher, et ils entassaient les cadavres comme un rempart sanglant pour défendre la borne des lutteurs acharnés. Le colonel Varose, 10 fois repoussé déjà, poussa le cri des montagnards. « L'accusons ! L'accusons !» et revenant à la charge, fit une trouée parmi les Suédois et ne se trouva plus guère qu'à 2 pas du capitaine et de l'espinassou. Le géant tourna la tête à demi. Il vit la moustache blanche et la flamboyante épée du vieux soldat. Il voulut tuer avant de mourir, et dans une contraction qui fit craquer ses os, il arracha sa main armée aux 2 mains du capitaine. En même temps, 12 de Suédois se précipitèrent contre Varose, qui, l'écume de la fureur aux lèvres, fut contraint de lâcher pied. C'en était fait du capitaine. Le poignard déjà levé de l'espinassou allait retomber et disparaître dans sa gorge. Soudain, un nouveau combattant, qui ne portait ni le costume des montagnards, ni l'uniforme des Suédois, arriva sur la place Louis XI. Il écartait et renversait dans son impétueux élan tout ce qui s'opposait à son passage. « L'accusons ! L'accusons ! » criait-il à son tour, et bondissant jusqu'à l'espinassou, il enfonça d'un seul coup son épée jusqu'à la garde, entre les épaules du géant, qu'il cloua contre terre et qui, râlant son dernier souffle et lâchant son poignard, rendit dans un blasphème sa vilaine âme au diable qu'il avait faite à son image. Ce nouveau venu, arrivé si fort à propos, était Raoul de Champdivert, qui sauvait pour la 2e fois depuis la veille la vie du capitaine l'accusant. « Merci, mon frère !» lui dit simplement ce dernier en se relevant d'un bond. Puis, saisissant la pesante rapière de l'espinassou, à la place de son épée brisée, il cria « En avant ! En avant ! Tue ! Tue !» Et à la tête de ses montagnards, il chargea les Suédois atterrés par la mort de leur chef et qui, culbutés dès le premier choc, jetèrent leurs armes, se débandèrent et cherchèrent leur salut dans la vitesse de leurs jambes. Les partisans, roulant derrière eux comme une avalanche, les poursuivirent l'épée dans les reins avec force mousquetade et pistoletade. En moins 1 minute, il ne restait sur la place Louis XI que le curé marquis et les 4 ou 5 hommes qui lui servaient d'escorte et auxquels il donna l'ordre de transporter dans la cathédrale le corps de Pierre Prost. « Que 2 d'entre vous restent avec moi, leur dit-il ensuite, afin de m'aider à rendre les derniers honneurs à cette noble victime. Quant aux autres, qu'ils rejoignent Varose et le capitaine, et qu'ils leur disent que je n'ai plus rien à craindre ici, et que si je ne les vois pas ce soir à la maison de la Grand-Rue, je les retrouverai demain au trou des Gangones. » Les montagnards se mirent en devoir d'obéir aussitôt à l'injonction de l'un de leurs chefs. Quand ils sortirent de la cathédrale, où cependant ils n'avaient passé que quelques minutes, un spectacle fort bizarre et à certains points de vue très réjouissant s'offrit à eux. Les bourgeois sont comme les moineaux francs. Ils s'effarouchent vite, mais ils se rassurent encore plus vite. Une certaine quantité des bons habitants de Saint-Claude, qui s'étaient enfuis dans toutes les directions au moment du coup de pistolet du masque noir et s'étaient tenus soigneusement cachés dans leur maison pendant la bataille, venaient de reprendre possession de la place Louis XI aussitôt après la complète déroute des Suédois. Ils avaient ramassé, parmi les monceaux de cadavres qui jonchaient le sol, le corps hideux de l'Espinassou. Ils avaient traîné ce corps jusqu'au bûcher. Ils l'avaient, à grand renfort de bras, hissé sur la plateforme. Ils l'avaient dressé contre le poteau qui formait au centre de cette plateforme une sorte de pilori. Ils l'avaient enchaîné à ce poteau en assujettissant le carcan de fer autour de son cou. Enfin, ils venaient de mettre le feu aux fascines. Puis, tandis que la fumée et les flammes commençaient à envelopper de blancs tourbillons et de langues fourchues le cadavre monstrueux du géant, il s'était pris par la main et, les pieds dans le sang, il formait une ronde autour du bûcher. Tant était profonde et exubérante la joie intérieure qu'il ressentait de se savoir enfin, à tout jamais, délivré de l'infâme et terrible soudard. Certes, le matin de ce jour, on aurait bien étonné l'Espinassou en lui venant dire que c'était à lui que servirait le bûcher de Pierre Prost. L'homme propose et Dieu dispose. Le médecin des pauvres, chapitre 18. La pendue. Il nous faut maintenant expliquer à nos lecteurs comment il avait pu se faire que Raoul de Champdivers, à qui Marquis, Varoz et Jean-Claude Prost venaient de confier la garde d'Églantine, et qui nous avons vu s'éloigner avec elle sous la conduite de Garbas, fut arrivé si complètement à propos sur la place Louis XI, comme le Deus ex machina des poètes antiques pour arracher le capitaine au poignard de l'Espinassou. Cette explication est facile à donner. Églantine et Raoul, guidés par Garbas qui marchait devant eux d'un pas rapide, arrivèrent en 15 ou 20 minutes à cette partie de la ville qui s'appelle la descente de la Poya et qui n'était pas précisément une rue, mais une réunion de chaumières séparées les unes des autres par des jardins plantés d'arbres à fruits. Chaumières et jardins se trouvaient situés sur la pente raide de la colline et non loin du rempart que Lacuzon et Raoul avaient escaladé la nuit précédente. La demeure de Piédefer était une pauvre maison, bâtie moitié en pierre à peine dégrossie, moitié en bois et composée seulement d'un rez-de-chaussée partagé en deux pièces de dimensions égales. En face de la porte, une petite source d'eau froide et pure jaillissait d'un rocher entre trois noyers gigantesques et formait un ruisseau qui s'en allait, en murmurant d'une voix grêle, se perdre dans la Bienne au fond de la vallée. « Voilà le logis, » dit Garbas. « Il n'est pas beau et il est bien pauvre, mais c'est ce qui fait sa sûreté. » Il ouvrit la porte qui n'était fermée qu'au loquet et il ajouta « Entrez là-dedans. Il y a un verrou intérieur que vous pousserez. Tenez-vous tranquille et ne vous montrez pas, car il fera chaud tout à l'heure sur la place Louis XI. » Et Garbas, portant avec une politesse montagnarde la main à son bonnet fourré, tourna sur ses talons et remonta sans perdre une minute la pente abrupte de la Poya. Raoul et Églantine entrèrent, et une fois dans la maison, le jeune homme poussa le verrou ainsi que Garbas venait de le lui recommander. Peut-être nos lecteurs s'étonnent-ils de voir un logis pouvant se fermer depuis le dedans, mais non pas depuis le dehors. La chose est commune et se justifie par la pauvreté même de la maison. Lorsque le maître est chez lui, il verrouille sa porte afin qu'on ne vienne point troubler son travail ou son sommeil. S'il sort, au contraire, dans quel but prendrait-il une précaution quelconque? Il sait trop bien qu'en s'éloignant, il ne laisse rien à voler. Piédefer, avant de devenir un des lieutenants des corps francs de Lacuzon et de recevoir le sobriquet caractéristique sous lequel il était connu, s'appelait Antoine Gatté et il exerçait la profession de vannier. Aussi, des bottes d'osier brut et préparées, des corbeilles, des vents, des paniers commencés encombraient-ils les deux pièces. Ce ne fut pas sans peine qu'au milieu de ce désordre, Raoul vint à bout de trouver un siège pour Églantine. Lui-même s'assit ou plutôt s'appuya en face d'elle sur le coin d'une table vermoulue. Peut-être, si nous étions purement et simplement romanciers, c'est-à-dire ne relevant que de notre imagination plus ou moins féconde, et libres de nous égarer selon notre bon plaisir dans les domaines infinis de la fantaisie, peut-être serait-ce ici le lieu de placer une scène touchante entre ces deux jeunes gens, ces deux amants si longtemps séparés, et que la destinée réunissait enfin dans des conditions étranges et inattendues. Mais avant tout, nous sommes historiens, et nous devons à la vérité de convenir qu'un très profond silence ne cessa de régner dans la pauvre maison qui donnait asile à Églantine et à Raoul. Sans doute leurs cœurs se comprenaient, mais leurs lèvres restaient muettes. Et comment n'aurait-il été autrement? Églantine, pâle et morne, les yeux baissés, les mains jointes, versait des larmes silencieuses. Elle se disait que dans un instant allait s'engager une lutte suprême, dans laquelle ses plus chers amis exposeraient leur vie pour sauver celle de son père. Et l'issue de cette lutte était incertaine. L'accusant, Varros et Marquis, pouvaient succomber sans parvenir à sauver le médecin des pauvres. Les pensées de Raoul étaient d'une nature presque aussi sombre que celle de sa fiancée. Le jeune homme songeait avec une profonde amertume qu'on allait se battre sans lui, et que tandis qu'il se cachait avec une jeune fille derrière la porte verrouillée d'une chaumière, les trois hommes qu'il honorait le plus en ce monde verraient peut-être couler leur sang dans un glorieux combat. Vainement il se répétait qu'un gentilhomme est toujours à sa place quand il veille à la sûreté d'une femme. Vainement il paraphrasait ces paroles de l'accusant. C'est un grand acte de courage que de laisser son épée au fourreau. Vainement il se représentait à lui-même que défendre Églantine contre tout péril, c'était défendre son propre bonheur. Il ne trouvait point de raisonnement assez fort pour se convaincre et pour se consoler, et la vivacité de ses regrets lui faisait presque oublier son amour. Un incident inattendu vint le distraire de ses pensées sinistres. Tout auprès de la maisonnette, un bruit de pas et de voix se firent entendre. Des cris, des imprécations, des gémissements se mêlaient, et de longs éclats de rire répondaient à des supplications désolées. Raoul quitta la table sur laquelle il s'appuyait et s'approcha de la fenêtre qui donnait sur le chemin. Une épaisse couche de poussière recouvrait les petits carreaux verdâtres et ne permettait point aux regards de percer leur douteuse transparence. Le jeune homme enleva la poussière avec son mouchoir sur une surface large comme une pièce de monnaie et il attacha son œil à cette ouverture. Il vit alors, de l'autre côté de la rue ou de la route, comme on voudra, auprès de la fontaine et sous les noyers séculaires dont nous avons parlé, un groupe de quatre personnes. Il y avait trois hommes et une femme. Les trois hommes étaient des soldats à figure patibulaire et portaient l'uniforme gris des routiers de l'Espinassou. La femme, âgée de 55 à 60 ans, grande et maigre, avait l'humble costume des plus pauvres paysannes franc-comtoises. Ses cheveux grisonnants s'échappaient de sa câline déchirée et tombaient en désordre sur ses épaules. L'épouvante et le désespoir décomposaient son visage, dont les traits jadis avaient dû offrir une certaine beauté. Cette femme se tordait les mains et s'agenouillait devant les soldats, en murmurant des paroles entrecoupées de sanglots. C'est à ces paroles et à ces sanglots que les gris répondaient par des ricanements farouches et de longs éclats de rire. Par instant, la malheureuse essayait de saisir avec ses mains suppliantes les genoux de l'un des trois hommes, espérant peut-être l'attendrir en implorant ainsi sa pitié. Mais le routier la repoussait brutalement du pied, comme s'il eût craint d'être souillé par son contact. L'un des gris se sépara du groupe, et déroulant une corde qui faisait 5 ou 6 fois le tour de ses reins, il leva la tête et il examina en connaisseur les branches les moins hautes du noyer le plus rapproché. Il ne tarda guère à en trouver une qui lui parut merveilleusement appropriée à l'usage qu'il en voulait faire. Il grimpa lestement sur l'arbre. Il attacha à la branche en question l'extrémité de sa corde, à l'autre bout de laquelle il fit un nœud coulant. Cette besogne achevée, il redescendit, et Raoul l'entendit qui disait à ses compagnons. « L'Espinassou et les camarades ont leur bûcher. Nous avons, nous, notre petit gibet qui vaut bien autant. Tout à l'heure, nous allons rire. Vous verrez la laide grimace que fera la sorcière au moment de s'en aller rejoindre dans l'autre monde, messire Satanas, son maître et seigneur. » Les deux gris applaudirent à ce petit discours et piquèrent avec la pointe de leur épée la vieille femme qui, toujours à genoux, continuait à les implorer, sans que ces supplications produisissent le plus léger effet sur leur cœur de granit. Sans doute alors, elle comprit qu'il ne leur restait aucun espoir, car ses larmes et ses gémissements cessèrent. Son visage prit la froide impassibilité du marbre. Elle écarta avec ses deux mains les cheveux qui voilaient ses yeux. Elle se releva, et elle se tint droite, raide et immobile, devant ses bourreaux. « Allons, la vieille !» lui dit l'un d'eux. « Au gibet ! Au gibet !» Elle marcha d'un pas ferme jusqu'à la corde qui se balançait au-dessus de sa tête, à la branche du noyer. Celui des gris, qui s'occupait plus spécialement des détails de cette exécution d'amateur, avait placé une forte grosse pierre, haute de près d'un pied, précisément sous le nœud coulant. « Voilà le marchepied qui te rapprochera du ciel, sorcière » fit-il. « Monte là-dessus !» La vieille femme obéit. Le gris se haussa sur la pointe des pieds et passa le nœud coulant autour du cou de la victime. Il ne restait plus, pour lancer celle-ci dans l'éternité, qu'à retirer la pierre qui la soutenait. « Ah ça, mais !» se dit en ce moment Raoul, qui sentait son sang bouillonner dans ses veines. « Je ne puis cependant pas voir assassiner ainsi devant moi cette misérable créature sans lui venir en aide. » Il se débarrassa de son manteau, puis après s'être assuré que son épée était bien à sa place et à portée de sa main, et avoir recommandé à Églantine de refermer la porte derrière lui, il sortit vivement de la maison. Les gris le regardèrent avec étonnement et curiosité et interrompirent pendant une seconde le supplice commencé. Nous avons décrit dans un précédent chapitre le costume de Raoul, costume qui participait, avons-nous dit, de l'uniforme de l'officier et de l'habit du gentilhomme. Les gris supposèrent que le porteur de ce costume pourrait bien appartenir à l'état-major du comte de Guébriant et ils firent le salut militaire. Le jeune homme désirait éviter, si faire se pouvait, une collision avec de pareils gredins, à qui la supériorité du nombre donnait contre lui, d'ailleurs, un avantage manifeste. Il résolut donc de profiter d'une erreur dont il devinait facilement la cause, et s'approchant des gris sans tirer son épée, il leur dit « Quel diable de besogne faites-vous donc là, camarade ?»« Vous le voyez, mon officier ?» répondit un des routiers. « Nous prenons un peu de plaisir. »« Et votre plaisir est de pendre une vieille femme ?»« Ce n'est pas une femme, mon officier. »« Qu'est-ce donc ?» C'est une sorcière. Qui vous a dit qu'elle le fut? Tout le monde le sait à Saint-Claude. Les gens du pays ne l'appellent jamais autrement que Maggie la sorcière. Et par qui cette sorcière a-t-elle été condamnée? Par nous-mêmes. Nous avons prononcé la sentence, et nous sommes en train de l'exécuter. Est-ce que vous êtes des juges ou des inquisiteurs, par hasard? Mon officier, nous sommes des gris du capitaine Lespinassou. Et les gris de l'Espinassou valent tous les juges et tous les inquisiteurs de la terre. Nous avons décidé que la sorcière serait pendue. Elle sera pendue. Passez donc votre chemin, si vous avez le cœur sensible, et si vous craignez de voir ce gibet du diable se balancer au bout d'une corde. « Je crois, Dieu me pardonne !» s'écria Raoul avec hauteur. « Je crois que vous venez de me dire de passer mon chemin ?»« Parfaitement, » répondit le gris avec insolence. « Et s'il me plaît de rester ?» Et s'il ne me plaît pas de vous laisser faire? Nous nous passerons de votre permission, voilà tout. Croyez-vous? Oui, par Dieu, nous le croyons. Et nous avons raison de le croire. C'est ce qu'il faudra voir, et nous le verrons tout de suite. Je vous ordonne de rendre la liberté à cette femme. Et si vous n'obéissez de bon gré, vous obéirez de force. Le gris auquel Raoul s'adressait le plus spécialement depuis le commencement de cette scène croisa ses bras sur sa poitrine, puis regardant le jeune homme en face, lui dit d'un ton plein de brutalité et d'arrogance. « Ah ça, qui diable êtes-vous donc, vous qui commandez en maître et qui prétendez vous mêler des affaires des autres ?»« Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis, » répliqua Raoul, « mais je vous préviens que dans une seconde, si vous ne m'avez pas obéi, vous allez faire connaissance avec mon épée. »« Soit, » fit le routier, « flamberge au vent, et l'on pourrait bien vous couper la crête, jeune coq de combat. » Puis, tout en dégainant sa rapière, il ajouta, en s'adressant à celui de ses compagnons, qui faisait l'office d'exécuteur en titre, « Limassou, finis-en avec la vieille !» L'honorable Limassou obéit aussitôt, et d'un coup de pied, il fit rouler la pierre qui servait de point d'appui au pied de la pendue. Raoul s'élança l'épée à la main sur le gris et l'attaqua avec une impétuosité foudroyante. Le routier essaya de rompre, tout en appelant ses deux compagnons à son aide. Ils arrivèrent, mais trop tard. L'épée du jeune homme venait de disparaître dans la poitrine du misérable qui tomba raide mort. Les deux autres, à ce spectacle, tournèrent les talons et s'enfuirent de toute leur vitesse, laissant Raoul seul avec le cadavre du routier et le corps de la malheureuse femme que secouaient déjà les convulsions de l'agonie. Le jeune homme se hâta de trancher la corde. La prétendue sorcière roula sans connaissance sur le sol.